Alors on sait que l'accident s'est produit à 17h14, le train intercité.
On a ressenti un gros choc dans le train et ça a déraillé très rapidement. Hein.
À ce stade, il y aurait 7 personnes décédées, plusieurs dizaines de blessés.
La première pensée que nous avons tous, c'est la solidarité vis-à-vis des victimes et de leurs familles et une très très grande émotion.
L'émotion, les larmes de Guillaume Pépi, le PDG de la SNCF. Nous sommes le 12 juillet 2013. Ce jour-là, un train reliant Paris à Limoges vient de dérailler à Brétigny-sur-Orge. 7 personnes sont tuées et 70 autres blessées. Bonsoir Jacques Monin.
Bonsoir Mathieu.
Depuis qu'est survenue cette catastrophe, la justice enquête pour établir les responsabilités. Où en est-on aujourd'hui?
Alors, 2 entreprises sont mises en examen en tant que personnes morales pour homicide et blessures involontaires. Il s'agit de la SNCF qui transporte les voyageurs et de Réseau Ferré de France qui était alors chargé de l'entretien des voies. Maintenant, sur le fond, ce qui est pointé du doigt par les experts judiciaires, c'est un défaut de maintenance sur un aiguillage dont une pièce aurait lâché et c'est ce qui aurait provoqué la catastrophe.
Alors ça, c'est ce qui ressort du dossier d'instruction, mais ce qui apparaît aussi, c'est que l'enquête n'a pas été simple et les juges se demandent même très sérieusement si on n'a pas cherché à leur cacher des choses.
Oui, alors que Guillaume Pépi s'était pourtant engagé à une transparence totale. Je vous propose de le réécouter 1 an après le drame, lors d'une conférence de presse, micro en main et sous le ronflement de la sono, il réaffirme alors cet engagement.
Nous nous sommes axés sur une priorité absolue qui est la manifestation de la vérité dans cette catastrophe. C'est ce que nous devons d'abord aux victimes et à leurs proches. C'est ce que nous devons aux Français qui utilisent fréquemment le système ferroviaire. Et c'est ce que nous devons évidemment aux 150 000 cheminots.
Nous devons la vérité, dit Guillaume Pépi. Et pourtant, Jacques Monin, au-delà des mots, il y a les actes. Et aujourd'hui, on peut avoir des doutes sur ce souci de vérité.
C'est en tout cas ce que se demandent les policiers peu après avoir démarré leur enquête, parce qu'ils voient débarquer dans leur bureau des cheminots qui arrivent les mains vides. Lorsqu'ils les interrogent, ils tiennent des propos évasifs, généraux, un peu comme s'ils avaient appris une leçon. Bref, pour Gérard Chemla, qui est l'avocat de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, il y a effectivement très rapidement un doute sur la volonté réelle de la SNCF de coopérer.
On se rend compte d'une part que la SNCF ne va pas donner l'ensemble des documents au prétexte qu'ils auraient disparu. Or, il n'est pas possible ni imaginable que de tels documents disparaissent. De la même manière qu'on a du mal à adhérer à l'idée qu'un cadre se serait mystérieusement fait voler son ordinateur au lendemain du déraillement pour le retrouver quelques semaines plus tard avec le disque dur abîmé. Je veux dire, tout ça, ça manque du plus élémentaire sérieux. Et donc, c'est très irritant.
Irritant, très irritant, même selon cet avocat. Que répond la SNCF face à ces accusations de dissimulation?
Alors, pour ce qui est de l'ordinateur, du vol, elle fait remarquer que c'est elle-même qui a porté plainte dès ce vol. On ne peut donc pas, dit-elle, la soupçonner d'avoir voulu cacher quoi que ce soit.
Il n'empêche, les juges, eux, ont de réelles interrogations sur l'attitude adoptée par certains cadres de la SNCF.
Oui, à tel point qu'ils vont prendre une décision assez spectaculaire dans ce genre d'enquête. Pendant 1 an, ce qui est beaucoup, ce qui est long, ils vont placer sur écoute 2 cas cadre de l'entreprise.
Alors Jacques Monin, pour Secret d'Info, vous avez eu accès à l'intégralité de ces écoutes et elles se révèlent pour le moins très instructives.
Oui, alors on va d'abord se rendre compte que ces cadres sont très inquiets à l'idée d'être interrogés par la police. Écoutez cet extrait de conversation intercepté en mai 2014 entre un cadre nouvellement nommé sur le secteur de Brétigny et un responsable de la maintenance du sud-ouest francilien. C'est un extrait lu par des journalistes de France Inter.
Je suis convoqué chez la police, là.
Oh putain, il faut vraiment que tu te fasses briefer par Claire. Tu es convoqué quand?
J'ai repoussé au 27 mai.
À la limite, il faudrait presque qu'on se fasse briefer en même temps par Claire.
Pourquoi? Tu dois y aller aussi?
On a les mêmes problèmes tous les deux. On trouve une situation merdique. Il faut absolument... Il faut voir Claire et il faut qu'on se fasse briefer.
Jacques Monin, pour que l'on comprenne bien, qui est cette Claire à qui ces deux cadres font constamment référence?
Alors c'est une ancienne juge de proximité qui a quitté le tribunal de police de Paris en 2013 pour rejoindre le service juridique de la SNCF.
Et c'est donc elle qui briefe les salariés avant les interrogatoires. Finalement, est-ce qu'il y a quelque chose de choquant là-dedans?
A priori non. Expliquer aux salariés comment se passe une audition, c'est courant dans les entreprises. Sauf qu'en l'occurrence, on peut se demander si l'objectif de ce service juridique, ce n'est pas de s'assurer s'assurer que les salariés vont en dire le moins possible. Tenez un exemple, le 4 décembre 2013, la fameuse Claire conseille un responsable des voix avant son audition par la PJ.
Moi, je t'invite à ne rien apporter. D'accord ? Tu viens avec rien. Tu viens avec ta fiche de poste. C'est tout. Et puis après, tu attends de savoir ce qu'ils te demandent. Il ne faut pas être proactif avec eux. Il faut véritablement attendre leurs demandes. Parce que si jamais, si tu veux, ils ne trouvent pas, enfin, ils ne visualisent pas, eh bien, ce n'est pas la peine de leur donner. C'est ça que je veux dire.
Bon, ne pas donner à la police ce qu'elle ne demande pas, pourquoi pas, mais ça ressemble quand même un petit peu à de la rétention d'informations, non ?
En tout cas, ce qu'on constate, c'est que certains cadres se disent qu'il vaut mieux que les enquêteurs ne voient pas tout. Écoutez cet autre extrait de dialogue entre cette Claire et ce cadre qui se demande, lui, s'il doit transmettre à la police des rapports sur lesquels il vient de mettre la main.
En fait, ce que j'ai retrouvé, c'est des rapports de brigade. Alors, je ne sais pas si ça vaut le coup de leur donner ça et qu'ils me disent, bah, donnez-moi tout le reste.
Ouais, effectivement, hein, c'est une mine d'or, les rapports de brigade.
Comment ?
C'est une mine d'or, ça. Mais bon, peut-être à éviter de leur donner. Moi, je regarde tout ce que tu me donnes et je cible les choses qui peuvent nous être préjudiciables ou pas. Ils ne les ont pas demandées, donc c'est pas la peine. Voilà.
Oui, vous l'entendez, la consigne est assez limpide, hein, ne rien donner qu'on ne vous demande pas. Et cette vision des choses semble partagée, si l'on en croit cette autre conversation, toujours lue par des journalistes, entre deux cadres de la SNCF.
L'officier de police judiciaire me demande un document et me demande pourquoi il y a un trou dans la maintenance entre 91 et 98 et on doit lui répondre demain.
Bah, le problème, c'est que j'ai pas accès aux archives. Quand je clique, il me met « documents non téléchargeables ».
Bah ouais, mais c'est parce qu'on veut pas, justement. Et quel est l'intérêt de donner ça ? Il faut surtout pas donner le document non prévu, hein. Il faut surtout pas leur donner de document, parce que si on commence à donner nos vieilles consignes, là, on est mal, hein.
Et pour ne pas être mal, comme dit ce cadre, surtout pas de zèle, ne pas tout donner aux enquêteurs. Mais on va plus loin, on va même jusqu'à vouloir modifier certaines notes internes pour les rendre, disons, plus présentables.
Oui, c'est en tout cas ce qu'on comprend à la lecture de cette nouvelle écoute. Écoutez, c'est le cas de le dire, une autre conseillère juridique cherche à convaincre un cadre de modifier une note, note qu'elle juge plutôt embarrassante.
Ce qui m'ennuie finalement, c'est qu'il y a ton mail qui traîne.
Mais mon mail, de toute façon, je le revendique, je changerai pas d'une virgule. Et je dirais pas que ça va si ça va pas.
Non mais tu changerais pas le fond. Mais si je m'asseyais à côté de toi, que je mettais certains mots mieux choisis, que tu accepterais, bah tu le changerais. C'est juste pour dire, enfin, je mens pas, j'arrange les choses. On va supprimer en très mauvais état. On se doute bien qu'on n'est pas en train de régénérer des appareils neufs, tu vois. Et ça change tout. C'est pas la peine d'aller mettre que tout est en très mauvais état. Si c'est saisi par la justice, ou si ça passe dans le Figaro, ça nous met mal, quoi.
Alors là, c'est beaucoup plus grave, car on peut légitimement se demander, Jacques Monin, si le service juridique de la SNCF n'outrepasse pas ses droits.
Oui, est-il dans les clous lorsqu'il cherche à cacher des documents, à les édulcorer, on l'a entendu, ou même lorsqu'il simule des auditions, comme on peut aussi le lire dans le dossier, d'autant plus qu'il a accès au dossier d'instruction, puisque la SNCF est mise en examen. Pour Maître Chemla, en tout cas, cela pose en effet un problème.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas dans la préparation de personne à une défense, on est dans une configuration de subornation de témoins. Et quand on le fait en ayant entre les mains la totalité du dossier de la procédure, c'est-à-dire en donnant connaissance à des témoins des pièces d'un dossier secret, je pense que là, on prend de telles libertés avec ce qui peut se faire qu'on est dans quelque chose de totalement anormal.
Subornation de témoins, dit cet avocat, et la subornation, eh bien, c'est un délit. Que répond la SNCF ?
Eh ben, au contraire, que ce mode de fonctionnement, c'est tout à fait normal. En tout cas, Emmanuel Marcini, qui est l'avocat de la SNCF, réfute qu'il y ait dans cette démarche quoi que ce soit de répréhensible.
Il ne s'agit pas de faire de la subornation de témoins. Tout ceci, ce sont des fadaises. Il ne s'agit pas de préparer les agents de la SNCF sur le fond du dossier. Il s'agit simplement de répondre à leurs questions, parfois à leurs inquiétudes, sur la manière dont leur audition va se passer, mais d'une manière générale. Il n'y a aucune audition dans le dossier, aucune, dans laquelle un agent de la SNCF aurait indiqué que la direction juridique lui aurait demandé de ne pas dire la vérité ou lui demandé de travestir.
Alors, à en croire cet avocat, rien n'indique que la direction juridique ait incité des cadres à mentir. Jacques Monin, vous qui avez lu intégralement les 500 pages de procès-verbaux de ces écoutes téléphoniques. Est-ce que vous arrivez à la même conclusion ?
Alors oui, et en même temps, je dirais que les choses sont quand même un peu plus subtiles. À aucun moment, en effet, un cadre dit qu'il va mentir et aucun conseiller juridique ne lui suggère de le faire, c'est vrai. Mais écoutez cet extrait de ce dialogue entre deux responsables de la maintenance en Île-de-France. Ils évoquent ce que serait la philosophie de la fameuse Claire en matière de vérité et vous verrez qu'ils en ont tout de même une conception assez particulière.
Il faut qu'on sache exactement ce qu'on peut dire sur le plan technique et sur le plan directif de maintenance.
Quand j'avais vu Claire la première fois, elle, ce qu'elle te dit, c'est qu'il faut effectivement dire la vérité, mais il y a une façon de dire la vérité.
Oui, on a compris, une vérité à géométrie variable, donc on semble quand même très loin de la transparence promise par Guillaume Pepy. Question, le service juridique gère-t-il cette affaire de manière autonome ? Où le fait-il avec l'aval de la direction ?
Alors c'est difficile de le dire. Depuis le 10 février, Guillaume Pepy, lui, a choisi de se taire sur le sujet. Mais l'avocat Gérard Chemla, lui, a du mal à croire que le service juridique d'une entreprise comme la SNCF puisse agir de son propre chef.
En principe, dans une grande entreprise, dans un dossier comme ça, vous mettez en place une cellule de crise. Dans la cellule de crise participent nécessairement les plus hauts dirigeants de la société, car ce sont des dossiers majeurs, et rien ne se fait sans une concertation étroite entre les acteurs de terrain et les dirigeants les plus importants de la société. Et donc, j'ai du mal à imaginer qu'on prenne des initiatives dans un dossier aussi sensible que celui-ci. La vraie question qui se pose, c'est de savoir si on est dans un mensonge d'État, si vous voulez, dans un mensonge organisé, et si toute l'entreprise a décidé de mentir, ou si on est dans une conjonction de mensonges, avec d'un côté le service juridique et de l'autre côté les gens qui sont individuellement responsables de manquements, qui essayent de dissimuler leurs propres responsabilités.
Mensonges organisés ou bien toute une série de dissimulations individuelles, est-ce que la lecture du dossier permet de savoir quelle est la bonne hypothèse ?
Alors, difficile d'être définitif, mais ce qu'on perçoit tout de même dans ces écoutes, c'est qu'il y aurait une certaine dissonance entre Guillaume Pepy d'un côté et son service juridique de l'autre. C'est en tout cas perceptible le 8 juillet 2014. Guillaume Pepy réaffirme alors au cours d'une conférence de presse qu'il y a bien eu un problème de maintenance à Brétigny et cela irrite la fameuse Claire qui se confie alors à un de ses collègues.
Quand le président prend la parole et dit « Moi, de toute façon, j'avais tout à fait compris depuis le départ que c'était la maintenance. Moi, je le savais d'emblée. » Eh bien, ça pose problème. Parce que si moi, en tant que juge, j'entends ça, je me dis « Bah, s'il savait, si c'était tellement évident, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Pourquoi est-ce qu'il n'a rien fait avant ?» C'est d'autant plus embêtant pour lui que s'il savait à ce point-là, ben, il peut tout à fait être entendu.
Dites-moi, Jacques Monin, ces écoutes, Le Canard Enchaîné en a déjà publié un extrait et surtout, elles figurent au dossier d'instruction. Les victimes qui sont parties civiles en ont donc eu connaissance. Comment ont-elles réagi ?
Bah mal, on le comprend. Et dès l'apparition des premiers extraits dans la presse en janvier dernier, Guillaume Pepy le comprend aussi et c'est pour cela qu'il décroche lui-même son téléphone et il appelle notamment Thierry Gomez. Lui a perdu ses deux parents dans la catastrophe et il a depuis créé une association d'aide aux victimes de Brétigny.
Il m'a appelé tout de suite après l'apparition dans Le Canard Enchaîné pour aussi m'expliquer que ce n'était que des propos pris par-ci et par-là, sortis de leur contexte, et qu'il fallait vraiment prendre la mesure de ces informations et ne pas en tirer tout de suite des avis sur l'attitude de la SNCF, sur son attitude. Bon, moi je lui ai répondu que ça confortait notre sentiment que on était quand même face à un double jeu.
Oui, il y aurait un double discours de la SNCF et ce sentiment semble partagé par les victimes. Alexandre Varro est un autre avocat qui défend d'autres victimes de Brétigny et il estime lui aussi que la SNCF essaie de brouiller les pistes.
Moi je constate qu'il y a des gens qui s'organisent avant d'aller témoigner, qui réfléchissent à ce qu'ils diront et ce qu'ils ne diront pas. Qu'ils réfléchissent aux documents qu'ils donneront et ceux qu'ils ne donneront pas. Et la vérité ne me paraît pas leur seule préoccupation. Donc il n'y a pas que des larmes à la SNCF. Il y a aussi de la réflexion. Et c'est une réflexion qui ne tend pas à la manifestation de la vérité, mais à la limitation de leurs ennuis. Ils font surtout en sorte de se protéger eux.
Alors il y a au moins une certitude dans cette affaire, c'est que les cadres et le service juridique de la SNCF redoutent beaucoup l'enquête judiciaire. Jacques Monin, est-ce que vous avez pu comprendre d'où venait leur réticence à s'expliquer devant les enquêteurs?
Alors pour ça, il faut peut-être se pencher sur le rapport des experts judiciaires qui a été rendu fin 2015. Certes, ils pointent des problèmes généraux en gare de Brétigny en 2013. Les trains roulaient à 150 km à l'heure, ce qui est très rapide, et les aiguillages étaient peut-être plus sollicités qu'ailleurs. Mais leur rapport confirme surtout ce que soulève dès juillet 2014 le procureur d'Evry, Éric Lallemand. On est alors un an après la catastrophe et lors d'une conférence de presse, il met clairement en cause les défaillances de la maintenance.
La cause principale de l'accident résulte d'un déficit de qualité de la maintenance. Le nombre élevé d'anomalies et leur répartition quasi homogène sur toute la surface de la partie prélevée témoignent d'une maintenance inadaptée.
Maintenance inadaptée, dit ce procureur, mais concrètement, en quoi consistent les anomalies dont il parle?
Au total, à Brétigny, il faut savoir que les experts ont répertorié une centaine de défauts, dont des boulons d'éclisse manquants.
Alors ce terme technique, cette éclisse que vous venez de mentionner, c'est quoi précisément?
Alors c'est une sorte d'agrafe métallique, c'est un morceau de métal qui relie deux rails entre eux grâce à des boulons. Et cette pièce est centrale dans cette affaire puisque la catastrophe de Brétigny, eh bien, elle est due à une éclisse qui a perdu trois de ses quatre boulons. L'éclisse s'est alors détachée en partie du rail, elle a pivoté vers le haut et c'est cela qui a provoqué le déraillement.
Et donc, lors de leur inspection à Brétigny, les experts ont trouvé des éclisses avec des boulons manquants.
Oui, mais pas seulement, on a aussi trouvé de nombreux détritus, des boulons desserrés, d'autres éparpillés sur le sol. Autant de négligence, en tout cas, qui choque Thierry Gomes de l'association Entraide et Défense des Victimes de la Catastrophe.
Le rapport d'expertise judiciaire a bien montré qu'il y avait plus de 200 boulons, enfin énormément de boulons qui étaient à côté des voies. Donc cela prouve que les agents faisaient de la maintenance au coup par coup et très rapidement. Et ils se débarrassaient des boulons d'ailleurs, ce qui peut être aussi dangereux, hein, parce que quand un train à 150 km/h passe sur les voies, il peut y avoir des projections qui peuvent aussi être dangereux, soit pour les usagers, soit pour les employés de la SNCF.
200 boulons retrouvés et des experts qui, dans leur rapport, dénoncent une situation très dégradée. Comment expliquer les nombreuses négligences dans le contrôle de ces voies de chemin de fer, quand même?
Alors, pour essayer d'y voir plus clair, je suis allé voir un des seuls syndicalistes, justement, qui accepte encore de s'exprimer. C'est Henri Gaillard, c'est le délégué de Sudrail qui accompagne les cheminots de Brétigny. Alors, lui explique que les agents de maintenance ont du mal à faire leur travail correctement parce que leurs effectifs ont été réduits, dit-il, mais aussi parce qu'il y a de plus en plus de trains en circulation et donc de moins en moins de temps pour réparer les voies.
Brétigny, c'est circuler à 150 km/h. Il faut savoir que pour faire une visite d'appareil de voie, il faut une interruption des trains. Et ça, on l'a jamais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va dire, admettons deux trains à l'heure, on est passé à six trains à l'heure, ça nous laisse très peu de temps pour nous d'intervenir sur les voies. Après, bien sûr, on va me dire, il y a les nuits. On pourrait travailler 8 heures. Ben même la nuit, on nous accorde que 2 heures ou 3 heures pour faire des opérations qu'on peut pas faire correctement parce qu'il y a toujours l'histoire du cadencement des trains.
À en croire ce syndicaliste, beaucoup de choses s'expliqueraient donc par des conditions de travail de plus en plus difficiles.
Alors c'est effectivement la thèse des syndicats et c'est sans doute en partie vrai, mais ce qu'on comprend aussi à la lecture du rapport des experts judiciaires, c'est qu'il y aurait eu à Brétigny un problème de management, de jeunesse et d'inexpérience de cadre qui était apparemment dépassé par leur base. Et pour l'avocat Gérard Chemla, ça explique aussi beaucoup de choses.
Le problème, c'est qu'on est dans une société extrêmement syndicalisée et le sentiment qu'on a, c'est qu'on a des cadres très jeunes qui ont énormément de mal à assurer leur autorité et qui sont donc en transaction avec les gens qui sont sur le terrain, c'est-à-dire qui leur cèdent des avantages. On s'aperçoit que les équipes de nuit ne font pas leur temps de travail pour, en échange, obtenir d'eux un engagement dans le travail que sinon ils n'auraient pas parce qu'ils n'ont pas l'autorité personnel nécessaire pour l'avoir. Et on doit constater que les problèmes ne sont pas simplement liés à l'insuffisance en nombre du personnel, mais aussi à l'insuffisance de l'implication d'une partie du personnel.
Alors Jacques Monin, cette dérive que nous signale très explicitement cet avocat, est-ce qu'elle pourrait expliquer la catastrophe?
Alors, faut être très prudent, mais ce que suggèrent les experts, c'est qu'on peut effectivement identifier les germes de cette catastrophe quasiment 5 ans avant qu'elle se produise. Parce qu'en 2008, une fissure est repérée sur l'éclisse défectueuse, mais elle est alors mal répertoriée sur le carnet de tournée, et du coup, elle ne sera jamais suivie, donc jamais réparée.
Attendez, vous êtes en train de me dire que si on avait correctement examiné les rails, on aurait pu éviter ce drame ?
En tout cas, la question se pose. Et pour Maître Chemla, de la Fédération des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, 2008, c'est en effet une date clé.
On va repérer en 2008 une fissure dans un endroit de la traversée. On est censé le surveiller tous les ans. Et pendant les 5 ans qui suivent, on va s'apercevoir qu'il n'a jamais été suivi ni vérifié. C'est-à-dire qu'il y a une erreur mineure dans le fait de mal répertorier l'endroit précis de l'étoilure, mais cette erreur mineure va nous permettre de démontrer que année après année, on n'a pas suivi le phénomène puisqu'on n'a jamais repéré l'erreur. Et donc ce que les experts viennent expliquer, c'est on sait qu'il faut surveiller et il n'y a rien qui se passe.
C'est quand même un constat assez accablant que dresse ce défenseur.
Absolument, mais ce sentiment semble partagé et à l'intérieur même de la SNCF. Écoutez, un extrait de cette écoute réalisée en septembre 2014, toujours lu par des confrères de France Inter, un responsable national des voies confie ceci à un cadre du service juridique.
S'ils avaient fait la visite correctement, ils auraient vu que la fissure n'était pas au bon endroit.
Donc elle a été mal faite.
Attends, je ferme ma porte parce que je parle tout haut là, mais si la fissure faisait 20 mm en 2008, il y a fort à parier qu'en 2011, elle devait faire au moins 10 cm. Donc s'ils avaient démonté les joints en 2011, il n'y aurait aucun souci, quoi. Ils auraient dit « Ah, merde, putain !» et puis voilà, fini, on n'en parlait plus. Une seule fois, on aurait bien fait la maintenance, et ben on l'aurait vu tout de suite.
Mais c'est ce qui est incroyable, c'est que c'est pas juste deux imbéciles malfaisants ou paresseux. Il y avait vraiment un problème au niveau de l'établissement, quoi.
Cet extrait que vous venez de nous faire entendre, il est assez terrible. Et ce défaut de surveillance est d'autant plus incompréhensible que la fissure n'était pas la seule anomalie visible sur cette pièce métallique, cette éclisse.
Effectivement, toujours si l'on en croit le rapport des experts, un premier boulon se serait détaché de l'éclisse plusieurs mois avant le déraillement et deux autres se seraient détachés mais plusieurs jours ou même plusieurs semaines avant. Or, il y a eu une tournée d'inspection le 4 juillet, soit 8 jours avant la catastrophe. Seulement, personne ne s'est rendu compte de rien.
Alors, face à tous ces éléments, quelle défense adopte aujourd'hui la SNCF ?
L'entreprise n'a pas l'intention d'accepter sans rien dire ces conclusions des experts. Et on va bien le comprendre dans cette nouvelle écoute téléphonique. Un responsable des voies vient de prendre connaissance de l'étude métallurgique réalisée sur l'éclise défectueuse. Il en parle à Claire, sa collègue du service juridique, et on sent bien qu'elle est déjà en train de préparer la contre-attaque.
Dans l'étude métallurgique, ils disent en fait que les boulons n'étaient pas présents le 4 juillet.
Oui, tout à fait, mais on peut aussi demander une contre-expertise. Je ne suis pas ingénieur, mais la métallurgie, normalement, tu l'as fait tout de suite. Et si tu l'as fait 8 mois après, eh bien, il s'est passé des choses. Donc si tu veux notre terrain de défense, il peut être là aussi, de dire « bah oui, vous êtes gentil, mais vu le temps que vous avez mis, où est le côté probatoire ?» Donc voilà, on a des éléments pour créer un doute et dire « c'est pas aussi figé que vous avez l'air de le dire ».
Voilà, créer un doute. Et ce qui est très intéressant, c'est que peu après, dans une autre écoute, un cadre conseille au service juridique de ne demander qu'un complément d'expertise. Parce que, dit-il, si on fait faire une contre-expertise, on sera, je cite, encore plus mal que maintenant.
Et au final, qu'a fait l'entreprise ?
Elle a précisément demandé ce simple complément d'expertise sur l'éclisse défectueuse en soutenant qu'aucun boulon ne s'est détaché avant le déraillement.
Et cette histoire de boulon, c'est très loin d'être un point de détail, car si c'est le cas, ça change tout.
Bah oui, parce que si tous les boulons étaient encore en place avant le drame, ça veut dire qu'il était impossible de voir que l'éclisse allait se décrocher. Et cela permet donc d'exonérer les cheminots qui étaient chargés de la maintenance.
Et c'est donc, si je vous suis, une absence de responsabilité que plaide aujourd'hui la SNCF.
Absolument, et cette thèse est très intéressante pour elle parce qu'elle lui permet de dissocier la catastrophe d'éventuels problèmes de maintenance. Écoutez l'avocat de la SNCF, Emmanuel Marcini. Ok, dit-il en substance, il y a pu y avoir des soucis, mais même si c'était le cas, dit-il, ils n'ont rien à voir avec le déraillement.
Les opérations de maintenance sont faites par des hommes, les hommes sont perfectibles, tout le monde peut commettre une erreur. La seule question est de savoir si, effectivement, ces erreurs aient une relation avec le retournement de cette éclisse. Rien aujourd'hui ne permet de penser et d'affirmer que les boulons étaient manquants à cette date. Rien ne permet de le penser.
Donc les experts judiciaires se trompent.
C'est en tout cas la position de la SNCF à ce jour. Que des experts judiciaires se trompent, ce ne seraient pas les premiers.
Les experts auraient donc tout faux, dit la SNCF. Alors en face, du côté des victimes, qu'est-ce qu'on en pense ?
Bien, l'avocat Alexandre Varro, lui, n'est évidemment pas d'accord. Pour lui, les experts ont bien fait leur travail et la SNCF cherche à noyer le poisson.
Ça a déjà été très difficile pour les juges de trouver des experts qui ne soient pas liés à la SNCF dans ces matières. Très compliqué. On a fini par en trouver. Ils ont travaillé, ils ont remis un rapport. Voilà, c'est le principe du rapport d'expertise. Il y a généralement quelqu'un qui n'est pas content à l'arrivée. Et ce qu'on peut attendre aujourd'hui, c'est que ces rapports d'expertise, au mieux de les contester, de batailler pied à pied pour les remettre en cause et limiter leurs responsabilités, eh bien, ils les lisent attentivement pour se demander comment pas faire les mêmes bêtises ailleurs qu'à Brétigny.
Ne pas refaire les mêmes bêtises, on imagine et on espère, hein, Jacques Monin, que la SNCF a pris depuis certaines dispositions pour améliorer la sécurité.
Alors oui, c'est le cas. À Brétigny, on a notamment renouvelé les équipes, on a remplacé une partie des aiguillages, on a ralenti les trains aussi. Ils ne roulent plus à 150 km désormais, mais à 100 km/h.
Mais le problème, c'est que malgré ces dispositions, 11 mois après la catastrophe en juin 2014, eh bien, de nouveau, la police a intercepté une conversation très troublante que vous nous révélez ce soir.
Oui, un cadre qui couvre le secteur de Brétigny vient de découvrir qu'on remplace parfois des éclisses abîmées, non pas par des éclisses neuves, mais par des éclisses en plus mauvais état. Il en tombe de sa chaise et écoutez ce qu'il raconte à son collègue responsable des voies au niveau national.
L'autre jour, j'avais envoyé deux paires d'éclisses à faire expertiser par Saint-Ouen. Là.
Ouais.
Le retour de Saint-Ouen, ça a été de me dire que la deuxième paire d'éclisses qu'on avait mis en remplacement elle était plus fatiguée que la première.
Elle était plus quoi ?
Elle était plus usée que la première. Elle avait plus souffert. Donc, en fait, si tu veux, quand on remplace des éclisses de manière générale, et partout en France, hein, à mon avis, on ne met pas forcément des éclisses neuves. Sauf qu'un jour, si tu la mets et qu'elle a déjà été utilisée sur 20 rails, eh ben, tu vois, elle est déjà morte.
Alors là, hein, c'est carrément hallucinant. On trouverait donc des éclisses de remplacement plus abîmées que les pièces qu'on a changées. Comment la SNCF peut-elle expliquer une telle aberration ?
Elle ne l'explique pas, puisqu'elle refuse désormais de répondre à des questions précises relatives aux écoutes au nom du secret de l'instruction. Mais attendez, ça n'est pas tout. À Brétigny, 10 mois après la catastrophe, on s'inquiète aussi de l'état des voies. Et là, on croit rêver. Écoutez ce que dit en mai 2014 le cadre qui couvre le secteur de Brétigny à un supérieur hiérarchique.
Qu'est-ce qui a cassé avant-hier ? Des éclisses, des boulons ?
Des éclisses.
Les deux éclisses, c'est quoi ton analyse ?
Mon analyse, c'est que les traverses, elles sont mortes.
Bon, c'est pourri à ce point-là ?
Mais c'est pas la seule, je te rassure, hein. Toutes les traversées de jonction de Brétigny sont dans cet état-là. À part celle qu'on a renouvelée l'année dernière, en fin d'année, et l'autre qu'on a faite en début d'année.
Donc toi, la situation telle que tu l'as décrit, c'est qu'en fait, il y a plein de choses non conformes parce que pourries. Bon, de ton point de vue, c'est qu'un problème de maintenance ou il faut qu'on vienne faire un saut sur toute la zone de Brétigny ? Parce que c'est à répétition, il y a des incidents tout le temps maintenant.
Des incidents tout le temps, c'est quand même très loin hein, d'être rassurant. Surtout que cette conversation, rappelons-le, s'est déroulée 10 mois après hein, le déraillement. Comment l'entreprise se justifie ?
Alors elle explique qu'elle a lancé un plan qu'elle appelle Vigirail. Elle a investi dans l'achat de tablettes et d'applications qui permettent de signaler tout problème à une plateforme centralisée. Elle a investi dans des trains équipés de caméras qui mesurent les défauts des voies. Le budget d'investissement dans le réseau ferré est passé d'1,1 milliard, lui, à 2,5 milliards par an. Bref, pour Claude Solar, qui est le directeur général délégué de SNCF Réseau, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Nous avions en 2010 environ 250 appareils de voie remplacés par an. Dans le cadre de notre plan Vigirail, en 2016, 450 aiguillages seront remplacés. Donc je confirme qu'à Brétigny comme ailleurs en France, les trains roulent en toute sécurité et ce volume de remplacement des aiguillages, qui a été plus que doublé, ça va se faire dans la durée. On en fera 500 tous les ans et de façon cyclique.
Mais pourquoi 8 mois après, ça inquiète encore des cadres ?
Écoutez, ce que vous relatez comme propos sont des propos qui sont issus d'une instruction judiciaire et donc que je ne commente pas.
Pas de commentaires donc, eh bien on n'en saura pas plus. Maintenant, et pour conclure, hein, Jacques Monin, la catastrophe de Brétigny, elle sera quand même jugée, il va y avoir un procès.
Hein. Oui, un procès fleuve sans doute, puisqu'il y a déjà plus de 20 000 pages dans le dossier, 117 parties civiles, 2 entreprises mises en examen en tant que personne morale donc, et une quarantaine d'avocats.
Et on l'a compris, hein, au cours de votre enquête, les lignes de défense de chacune des parties sont assez claires.
Oui, sauf revirement de la SNCF, on devrait donc avoir d'un côté Bah, la SNCF qui devrait relativiser la question de la maintenance en la dissociant de la catastrophe, ce qui dédouanerait et les cheminots de terrain et par contre-coup l'encadrement. Et on aura de l'autre la partie civile qui, comme l'explique l'avocat Alexandre Varro, cherchera elle sans doute à établir des responsabilités.
C'est très bien ces grandes personnes morales, mais ça risque de cacher la vérité. Et la vérité, c'est que des gens, alors, il ne s'agit pas de demander la tête de tel ou tel, mais il s'agit de comprendre qu'on n'aura pas la vérité quand on ne saura pas qui a commis des fautes et quelles fautes ont été commises. La SNCF ne doit pas planquer les coupables. C'est un peu l'impression que j'ai aujourd'hui, que l'Organisation Générale de la Défense de la SNCF, c'est d'être elle-même responsable d'un problème un peu innommé pour éviter que l'on nomme les responsables d'un problème clair et identifié.
Oui, quoi qu'il en soit, la SNCF, qui, rappelons-le, est une entreprise publique, les mots ont un sens, hein, a déjà perdu beaucoup dans cette affaire, puisqu'elle a donné le sentiment qu'elle cherchait à se protéger plutôt qu'à servir la vérité. Une vérité qu'elle avait pourtant promise et qu'elle doit toujours aux victimes comme aux usagers.
Nous nous sommes axés sur une priorité absolue, qui est la manifestation de la vérité dans cette catastrophe. C'est ce que nous devons d'abord aux victimes et à leurs proches. C'est ce que nous devons aux Français.
Alors on vous signale que nous avons lancé depuis plusieurs semaines une invitation à Guillaume Pépi pour qu'il vienne répondre à ce micro aux nombreuses questions que pose votre enquête, Jacques Monin. Mais son service de presse nous a répondu qu'il n'était pas disponible. Merci en tout cas, Jacques Monin, pour nous avoir dévoilé tout ce pan du dossier. Votre enquête est à retrouver en texte et aussi en vidéo sur franceinter.fr. Et sur la page Facebook de Secrets d'Info.